qu'est-ce que vous pensez du MLF?
Pourquoi le MLF?
Et le mouvement de libération de la femme.
Ah oui.
Les femmes n'ont pas besoin d'être libérées.
Non, si, elles sont libres tout en étant au foyer, à mon avis. Hein. Elles doivent rester à la maison.
Moi, je préfère être à la maison.
Mais je vois pas une différence entre un homme et une femme. Pour moi, c'est pareil.
Chacun donne son opinion, son point de vue. Et on est tombé d'accord pour qu'elle puisse élever les enfants tranquillement à la maison.
Bonjour à toutes, à tous. Bienvenue dans Les Voix d'Olympe, une émission consacrée aux femmes, à leurs voix multiples, au travers de récits de vie, de témoignages, de réflexions silencieuses ou d'opinions très affirmées. Des voix pour ne pas oublier que la liberté des femmes est récente et fragile. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter Marguerite et Lise.
Je m'appelle Marguerite, j'ai 57 ans et je suis médecin généraliste. Je travaille dans un établissement de santé en milieu rural. Et dans cet établissement, nous accueillons des adultes qui viennent en gros pour deux types de pathologies, soit des problèmes d'obésité ou de diabète. Donc ce sont des adultes avec qui nous orientons le séjour sur l'éducation, essentiellement. Et d'autres patients plus âgés qui viennent en transfert de l'hôpital ou des cliniques avoisinantes suite à une intervention, suite à une pathologie grave ou suite à un événement qui nécessite un transfert dans notre établissement avant de réintégrer leur domicile ou la maison de retraite si l'autonomie n'est pas suffisante pour un retour à la maison. Donc j'ai fait mes études en Bretagne. Le choix de faire médecine n'a pas été immédiat. Ma première orientation, ça a été un bac, un BTS, je crois, où j'étais allée dans un IUT pour suivre mon amoureux de l'époque. En fait, ça ne correspondait pas du tout à... ça ne m'intéressait pas vraiment. En plus, je travaillais, donc à la fin de l'année, on m'a remercié à l'IUT. On m'a conseillé d'aller dans la vie active, ce que j'ai fait pendant un an. Et je travaillais comme serveuse dans un restaurant. Et puis, à la fin de l'année, j'ai décidé de changer d'orientation. Et je me suis inscrite en fac de médecine en Bretagne, où était ma marraine. Et j'ai été reçue à la première année. Alors, ma grand-mère était médecin, ce qui m'a certainement orientée dans ce choix. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais j'avais de l'admiration pour cette grand-mère, qui était très... très autoritaire, un peu masculine, et qui a élevé ses trois enfants seule, puisque son mari est mort en déportation. Donc je pense qu'elle a participé à ce choix de façon certainement inconsciente, mais voilà. Elle n'a pas su que je faisais médecine, cette grand-mère, puisqu'elle est décédée avant. Donc pendant mes études, j'ai pas remarqué de façon évidente qu'il y avait plus de garçons, plus de filles, ça ne m'a pas choquée. Et je ne me suis pas non plus sentie moquée en tant que femme. Mais j'ai tout de suite échappé à tout ce qui était le bizutage. Enfin, je n'ai jamais participé à ce type de réunion que je trouvais complètement idiote. Donc je me rappelle le jour où le bizutage avait lieu, je suis vite sortie de l'amphithéâtre par la petite porte et je n'ai pas assisté à la fête, entre guillemets. Donc pendant mes études, j'ai rencontré mon compagnon qui est devenu mon mari. Et au début, j'ai travaillé un peu comme infirmière. Mes parents m'aidaient, mais j'avais aussi envie d'être indépendante et autonome. Donc j'ai travaillé un petit peu, mais ça n'a pas vraiment marché. Cette année-là, je n'ai pas eu mes examens. Donc j'ai arrêté de travailler comme infirmière. Et c'est mon compagnon qui travaillait, qui nous faisait vivre avec... bien sûr, en fin d'études, on gagne un petit peu d'argent. Mais c'est surtout lui et puis mes parents qui faisaient vivre le foyer. Donc j'ai eu mes enfants pendant mes études. Avec mon compagnon, nous n'avions pas envie d'attendre la fin de mes études. Je trouvais que c'était un peu dommage de faire des enfants trop tard. Après, quand les études sont terminées, il faut s'installer. Donc il y a toute la difficulté de l'installation. Ce qui fait que ça repousse vraiment loin le temps de la maternité. Donc je crois que j'ai fait mes enfants en quatrième... Enfin, ma première fille est née en quatrième année. Et voilà, la deuxième, nous étions déjà arrivés dans la région. Et la troisième, lorsque j'ai passé ma thèse, ma dernière fille avait 6 mois et c'était un petit peu folklorique. Donc quand j'ai eu fini mes études, nous sommes arrivés dans la région et mon mari était artisan, donc il a ouvert sa boutique. Et oui, je n'avais pas terminé mes études en fait. J'étais encore interne dans un hôpital proche de la maison. Et à la fin de mes études, une fois que ma thèse a été soutenue, j'ai fait des remplacements. J'avais commencé mes remplacements avant mon congé maternité pour ma dernière fille. Et à la fin de mon congé maternité, finalement... Oui, ça y est, ça me revient. Finalement, je ne suis pas retournée faire des remplacements, puisque le médecin généraliste n'avait plus besoin de moi. Il s'entendait bien avec ma remplaçante. Et donc, j'ai eu des propositions pour travailler à temps partiel dans l'établissement où je suis actuellement, ce qui m'a beaucoup plu parce que c'était une proposition à 60%, que j'avais 3 filles et que mon mari étant artisan, il était très peu présent. Donc je me disais, si nous sommes 2 artisans, enfin 2 professions libérales avec nos 3 filles, je voyais ça mal parti. Donc j'ai accepté avec beaucoup de joie cette proposition de travailler à temps partiel. Je travaillais tous les matins et un après-midi par semaine, ce qui était vraiment idéal pour élever mes enfants et continuer à allier vie professionnelle et vie familiale. Donc j'ai travaillé 60% pendant un certain temps, puis mon temps de travail a augmenté à 80%, puis à 100%, ce qui était aussi plutôt agréable parce que mes collègues masculins me reprochaient parfois de ne pas voir les choses comme eux, dans la mesure où j'étais à temps partiel, je ne pouvais pas comprendre la difficulté du temps plein. Donc je me suis trouvée à égalité avec eux au bout d'une dizaine d'années, mais je ne saurais plus vraiment dire. Le temps passe bien vite. Donc je me suis trouvée à égalité avec eux et j'ai pu échanger avec eux des difficultés du temps plein et m'investir à 100% dans mon travail. Alors, comment j'ai élevé mes filles ? Comment nous avons élevé nos filles, du mieux qu'on a pu. Et surtout, on leur disait qu'il fallait travailler un peu comme... Moi, c'est ce que me disait ma mère quand j'étais petite, il faut que tu aies un travail pour être autonome quand tu seras grande. Donc mes filles, on les a aussi élevées dans cette optique-là, et elles ont toutes les 3 un métier. Les 2 aînées dans un métier de santé, et la 3e, un métier plutôt masculin, entre guillemets, ingénieur du son. C'est vrai que quand elles étaient petites, elles ont fait de la danse classique, toutes les 3, avec petites tresses, tutus et tenues roses, mais qu'elles se sont après... elles ont fait leur propre choix. Il y en a une qui a fait du judo, du foot, elles ont joué de la musique aussi, chacune. Voilà, j'ai pas l'impression de les avoir élevées plus comme des filles que comme des garçons, mais comme je n'ai eu que des filles.
Alors Marguerite, maintenant je vais te proposer de tirer un petit papier qui se trouve dans cette enveloppe, où il va y avoir marqué un mot, maximum 2, en rapport avec la femme, la condition de la femme. Voilà, donc tu vas me dire spontanément ce que ça t'évoque, sans réfléchir. S'il y a un mot qui t'inspire pas du tout, tu vas le laisser de côté. Voilà, et puis t'en prendras un autre.
Allons-y. Alors, lequel choisir ? Celui-là. Droit de vote. Eh bien, qu'est-ce que ça m'évoque, le droit de vote ? Ça m'évoque une vieille amie de mes parents qui s'appelait Madeleine Brousté, chez qui j'allais réviser mes examens de médecine, parce qu'elle habitait à côté de chez mes parents. Et elle me racontait, elle, comment elle s'était battue pour le droit de vote des femmes. Elle avait participé à un groupe enfin, elle avait participé à une action, et elle m'a raconté ça avec beaucoup de détails, et elle était fière d'avoir participé à cette action, et moi je l'écoutais avec admiration, parce que je trouvais que c'était courageux. Donc mes filles sont parties progressivement de la maison, avec une facilité du fait qu'elles ont été internes. Donc dès la seconde, elles partaient régulièrement la semaine pour revenir le week-end. Donc on était déjà habitués un peu à vivre sans elles progressivement. Et puis elles ont fini par partir définitivement. Maintenant, ça fait bien longtemps qu'elles ont pris leur envol et qu'elles sont autonomes, plus ou moins. Voilà, il y en a encore une qui n'a pas fini ses études. Et puis maintenant sont arrivées deux petites filles. Donc là aussi, ça modifie un peu le rapport mère-fille. Je crois que élever un enfant, c'est pas forcément facile. Donc ça permet aussi de se rendre compte que finalement, nos parents ont fait ce qu'ils ont pu et que les reproches qu'on a pu faire sont pas si évidents quand on les vit au quotidien. Et puis ce qui est un peu troublant, c'est que cette position de grand-parent, elle est forcément agréable, parce qu'on a, comme on dit toujours, que le bon côté des choses, mais c'est nos filles maintenant qui gèrent le rapport avec leur enfant et leur compagnon. Il faut se mettre un peu en retrait, quoi. Parfois, on a envie d'intervenir et de dire « Mais non, elle est fatiguée, il faut que tu la couches. » Et non, non, c'est plus notre place. Notre place, c'est de les laisser faire et de trouver, elles, leur façon de gérer leur vie de famille, leur vie de couple. Sinon, au niveau de mon métier, je suis toujours passionnée, je fais des formations régulièrement. Et ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est vraiment le rapport à l'autre, aussi bien avec le patient qu'avec les équipes, qui permet somme toute une meilleure connaissance de soi et une meilleure compréhension de l'environnement et de ce monde qui nous entoure et que l'on ne comprendra jamais complètement.
Vous êtes bien dans l'émission Les Voix d'Olympe sur Studio Zef.
Je m'appelle Lise, je suis étudiante à Bruxelles dans une école de cinéma pour être ingénieure du son. Je suis dans ma dernière année d'études, donc je commence un petit peu à travailler à côté, et ça c'est chouette. Et je suis à Bruxelles depuis 4 ans à peu près. Sinon, j'ai grandi en Loire-et-Cher et j'ai quitté mes parents à l'âge de 17 ans pour voler de mes propres ailes et aller faire mes études à Caen pendant 5 ans. J'ai fait un master en art du spectacle, en cinéma. Quand j'en ai eu soupé de la théorie, on va dire, j'ai voulu me mettre à la pratique et donc du coup, je suis venue en Belgique pour mettre ma main à la pâte dans le milieu du cinéma. On m'a parlé de cette école de cinéma à Bruxelles, où il y avait une pédagogie qui était vraiment tournée autour de l'étudiant, où il y avait un réel accompagnement technique en fait, par rapport à l'étudiant. Et moi, je me suis dit, bon, j'ai jamais fait de technique de ma vie. Je connais la théorie, je sais comment on raconte une histoire, qu'est-ce que ça veut dire de mettre telle chose dans un film pour raconter quelque chose, mais j'avais jamais fait de pratique, donc je suis arrivée dans cette école, j'ai passé les concours, j'avais 21 ans, et j'ai été prise, miraculeusement, je ne sais pas comment, mais j'ai été prise dans cette école. Et donc ça fait 4 ans que j'y suis, parce que j'ai doublé ma première année, donc là je suis en dernière année, en troisième, dans une classe où je suis la seule fille. Quand on était en première année, on était deux filles sur 40 personnes. En deuxième première année, parce que j'ai doublé ma première, on était pareil, deux, je pense. Et puis à partir de la deuxième année, j'étais toute seule. Donc seule fille sur 30 garçons. Et là, cette année, je suis la seule fille sur une vingtaine de garçons. Et là, c'est ma dernière année. Et c'est plutôt chouette parce qu'en ce moment, ça fait une semaine à peu près, mais j'ai plein de projets extérieurs à l'école pour lesquels je vais être payée. Et donc je commence déjà à être un petit peu dans la vie active alors que je ne suis pas encore sortie de l'école. Et ça, c'est vraiment chouette. Mais ouais, c'était assez particulier pour moi d'arriver dans un... Enfin, parce qu'à la fac, par exemple, c'était à peu près 50-50 au niveau de la proportion entre entre hommes et femmes, et arriver là, dans cette école où il y a déjà, je suis partie des plus vieux de la classe, enfin plus vieux, plus vieille. J'ai 25 ans, enfin 26 ans maintenant, et la majorité des personnes qui sont avec moi sortent directement du bac, enfin de l'équivalent bac en Belgique, donc ils viennent d'avoir 20 ans. Là. Donc j'ai 6 ans de plus qu'eux, et en plus de faire partie des plus vieux de la classe, j'étais la seule nana, et enfin je suis toujours la seule nana, mais j'ai jamais, enfin ça n'a jamais posé de problème réellement, et ça, c'est particulier pour les autres. En fait, je m'en suis rendu compte à partir du moment où j'ai été désignée comme étant la fille en son par le reste de l'école. Enfin, non pas que je sois populaire ou quoi, mais en me disant « Ah putain, t'es en son, t'es une fille, c'est bizarre. » Enfin, pas forcément bizarre, mais c'est... J'ai plus remarqué ça, que j'étais toute seule dans ma classe, par le discours des autres, plutôt que moi, réellement, m'en rendre compte par moi-même, parce que ça n'a jamais été dans ma classe un souci quelconque, quoi. C'était un peu deux facettes mélangées, quoi. Il y avait en même temps, effectivement, le regard des autres qui m'ont en fait fait réaliser que ingénieur du son, c'était pas un métier féminin. Enfin, c'était pas un métier mixte, parce que je m'étais jamais posé la question. Moi, je me suis dit, je veux faire du son. Dans le milieu du cinéma, pour moi, le son, c'est vraiment la chose qui me passionne, quoi. Pour moi, c'est la partie inconsciente d'un film. Il suffit de mettre un son un peu chelou et tout de suite le spectateur se sent pas bien. Il y a beaucoup de choses inconscientes qui passent dans un film et qui passent par le son. Et donc pour moi, c'était juste, enfin, dans ma tête d'intellectuel qui sort d'un master de cinéma, je m'étais dit je vais faire du son, ça va être trop bien. Mais je m'étais jamais posé la question de savoir si c'était un métier masculin ou féminin ou mixte. Et c'est en fait en arrivant dans cette école, je me suis dit bon, bah, il n'y a pas beaucoup de filles, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, de la part des gens de ma classe, ça n'a jamais été un truc de... où je me suis sentie privilégiée par rapport à certains moments parce que je suis une nana ou je me suis jamais sentie à l'écart parce que j'étais une nana, et ça n'a jamais été « ça va être plus dur pour toi parce que t'es une nana ». C'est juste, c'est pas courant et on s'en fout. Le fait d'être une nana dans ma classe, ça n'a jamais été relevé et soulevé par les gens qui sont avec moi, donc les gens de ma génération, par contre, j'ai été soulevée par mes professeurs. Si on peut parler de discrimination, je l'ai ressentie de la part de mes profs. Ça, clairement, et c'est des profs qui ont entre... je sais pas, qui ont entre 50 et 60 ans, et qui sont, si on peut le dire, d'une autre génération que la mienne. Et c'est des petites choses, c'est des tout petits trucs, mais... c'est pas un gros mot, mais je pense que très clairement que je suis féministe. C'est des choses que j'ai remarquées et qui m'ont énormément dérangée. Par exemple, je sais pas moi, un prof qui a besoin d'un coup de main pour porter une table de mixage, pour la porter dans la classe, pour faire un cours dessus. J'étais la première à arriver dans la classe. Et donc je lui propose de lui donner un coup de main pour installer la table de mixage dans la classe. Et là, il me regarde avec un geste condescendant et me dit « s'il te plaît... je ne voudrais pas te vexer, mais même si tu as plus l'air d'une rodie qu'une groupie, je ne préférerais pas prendre de risques. » Et donc là, sur le coup, je me suis dit « Waouh !» Les rodies, c'est les gens qui aident à porter le matériel pendant les concerts. Eh ben, il ne veut pas. Parce qu'il considère que comme je suis une femme, j'ai peut-être moins de... Effectivement, biologiquement et physiquement, on a moins de masse musculaire, ou je ne sais pas. Mais il a préféré perdre du temps dans l'installation de son cours et attendre les gens qui sont arrivés, je sais pas, à 5 minutes après. Donc on a passé 5 minutes à se regarder dans le blanc des yeux, à pas pouvoir prendre de l'avance sur le cours parce que j'étais une nana. Et sur le coup, après la réaction des gens de ma classe, ça a peut-être, sans parler de discrimination, mais par exemple j'en ai parlé à un de mes amis qui fait partie de ma classe et avec qui je m'entends très très bien. Et bien, sur le coup, il n'a pas forcément compris pourquoi j'étais très énervée par rapport à ça. Et là, pour le coup, je ne parle absolument pas de discrimination, mais c'est peut-être quelque chose qui, pour le coup, pour les gens de ma classe, est moins... on passe très vite pour la nana hystérique qui pète un câble parce qu'il y a un petit truc qui se passe et « oh, ça va, c'est pas grave ». Alors que profondément, enfin, je ne dis pas que j'en ai profondément été blessée et que j'ai pleuré pendant 3 jours parce qu'il ne voulait pas que j'aide à porter sa table de mixage, c'est son problème, c'est pas le mien. Mais pour le coup, moi, j'ai eu une réaction qui était, pour moi, justifiée par rapport à ça. J'étais là, mais il est complètement con, ce mec. Enfin, c'est incroyable de refuser de l'aide comme ça parce que je suis une nana. Mais enfin, ça, c'est une anecdote parmi tant d'autres. Mais de la part de certains professeurs, quoi. Pas tous, mais il y a un ou deux professeurs comme ça qui reviennent souvent. Ou par exemple, ils ont un discours qui est beaucoup plus infantilisant avec moi. Par exemple, on fait une initiation en groupe sur du matériel. À ce moment-là, je suis avec trois autres personnes de ma classe, donc qui sont des garçons. À ces garçons-là, quand ils leur parlent, de manière très technique, en utilisant des mots et des termes qui sont très techniques par rapport au matériel qu'on est en train d'appréhender. Et puis à un moment, il se tourne vers moi et il me dit « Tu veux faire joujou avec les boutons ?» Enfin, il n'y a pas d'autre mot, c'est de la misogynie. Quoi. Là, pour le coup, c'est une différence qui est très marquée, mais c'est toujours le même professeur qui n'a pas voulu que je l'aide à porter la table. Donc, c'est d'un côté, ce n'est pas le corps enseignant qui a un problème avec ça, c'est le fait que moi, en tant que seule nana dans ma classe, je me retrouve avec des professeurs qui sont à 100% des hommes. Pour ce professeur-là, il y en a une trentaine d'autres qui n'ont jamais eu de mots, de réflexions, de comportements qui étaient différents avec moi parce que j'étais une femme, quoi. À aucun moment, il y a eu un truc malveillant de la part de mes camarades par rapport à moi. Pour eux, il n'y a aucune différence. Quoi. On a les mêmes connaissances, on a les mêmes capacités techniques et il n'y a aucune différence à avoir. Surtout dans... Enfin, comment dire, il y a des métiers où il y a effectivement la discrimination par rapport à la force physique ou par rapport à, je sais pas moi, un héritage qui remonte à très longtemps et qui fait que les femmes aujourd'hui se mettent à pratiquer ce genre de métier. Donc c'est difficile pour le corps de métier d'accepter qu'il y ait des femmes qui pratiquent ce métier aujourd'hui, donc pour elles c'est difficile. Moi c'est pas le cas. Peut-être qu'historiquement c'est un métier qui est pratiqué par des hommes, mais c'est aussi un métier qui est très jeune. Alors pour tout ce qui est des questions de sexisme ordinaire, je dirais que oui, j'y suis énormément attentive. C'est un truc que je soulève souvent, mais après, oui, je suis féministe. Après, j'ai pas encore fini de construire mon féminisme. J'ai pas encore fini d'élaborer ma vision sur le sujet. Enfin, je suis encore jeune, j'ai 26 ans, et je pense que ces questions-là, de toute façon, c'est des questions auxquelles il faut réfléchir et qu'il faut accepter l'évolution de nos opinions par rapport à notre âge, par rapport à l'évolution de la société. Donc, je suis féministe. Après, de quel féminisme, je n'en sais rien. Parce que chacun, je pense, construit son féminisme avec ce qui l'entoure. Mais c'est des choses auxquelles je suis très, très attentive. Quoi. C'est con, mais on se balade dans la rue. On a des... Je ne sais plus quelle pub c'était, mais genre une heure de jeu avec les enfants égale à 100 calories dépensées. Et bien sûr, c'est une nana sur la photo et c'est aller avec ses enfants. Et t'as envie de dire, mais déjà, est-ce que les nanas pensent systématiquement au fait qu'il faut qu'elles fassent du sport, qu'il faut qu'elles soient jolies? Et de surcroît, est-ce que toutes les nanas ont pour seul et unique but d'être maman? Et donc, comme elles ne sont que maman et qu'elles doivent faire du sport, faut concilier les deux. Donc, jouer avec ses enfants, c'est faire du sport. C'est plein de petits trucs qui oui, m'énervent au quotidien et ça me révolte exactement de la même façon quand je vois une pub où il y a un homme qui est magnifié pour être viril. Enfin, le féminisme, c'est l'égalité des sexes et c'est l'égalité. Donc, il faut pas non plus pousser les hommes à dire « Vous avez cette place-là et vous devez la respecter ». C'est exactement la même chose que de dire à une femme « Ta place est dans la cuisine et tu dois y rester ». Il faut accepter et il faut encourager la mixité des rôles et la mixité de la position. Donc, ça me révolte autant de voir une pub avec un homme qui est hyper musclé et qui doit assumer sa virilité à fond qu'une meuf qui est en maillot de bain et qui doit assumer sa féminité à fond. Enfin, pour moi, c'est exactement la même chose. Ça me révolte de la même façon. Quoi. Moi, j'ai été élevée dans une famille déjà qui n'est pas ordinaire dans son fonctionnement. C'est-à-dire que moi, dès ma naissance, enfin à partir de mes 5 ans, mon père a arrêté de travailler et c'est ma mère qui travaillait. Donc déjà, moi, j'ai été élevée dans une conception où c'est pas l'homme qui travaille et la femme qui reste à la maison et s'occupe des enfants. Moi, c'était l'inverse. Donc déjà, ça pousse à une certaine réflexion. Comment ça se fait que mon père, par exemple, a été vu d'une certaine façon par la société comme étant quelqu'un qui se fait entretenir, alors qu'une femme, quand elle reste à la maison et qu'elle s'occupe de ses enfants, il y a beaucoup moins de stigmatisation par rapport à la femme qui reste à la maison. C'est bien, elle s'occupe de ses enfants, tout ça, machin, c'est valorisant. Alors que à certains moments, je pense que mon père a été stigmatisé par rapport à sa position comme étant quelqu'un qui se fait entretenir par ma mère. Pour moi, en tant qu'enfant, je me suis posé la question de savoir pourquoi. Enfin, pour moi, c'était complètement normal, quoi. Effectivement, mon père travaillait pas, c'est pas grave, quoi. J'ai toujours eu un peu une réflexion par rapport à comment ça se fait que les choses se passent comme ça, etc. Et effectivement, peut-être que pour certaines femmes de ma génération, c'est quelque chose de moins essentiel parce que peut-être que pour elles se sont jamais retrouvées face à des situations d'injustice où elles remettent les choses en question par rapport à comment elles sont et qu'elles ne réalisent pas forcément que les acquis sociaux qu'elles considèrent comme étant acquis sont hyper jeunes. Par exemple, ça fait que 50 ans que les femmes peuvent avoir un compte en banque et c'est quelque chose qu'il faut se rappeler et se répéter tous les jours, quoi. Par exemple, il y a beaucoup de choses, ça va peut-être faire hérisser les poils de certaines personnes en entendant ça, mais par exemple, pour moi, tout ce qui est la galanterie chez un homme, ou par exemple, un homme et une femme vont au restaurant, c'est à l'homme de payer, c'est pas de la galanterie. Ça fait que 50 ans que les femmes peuvent par elles-mêmes considérer qu'elles peuvent se payer des choses. Et donc, effectivement, il y a tout un... Il y a des centenaires de situations où c'est les hommes qui devaient payer parce que les femmes n'avaient pas d'argent pour pouvoir le faire. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est considéré comme étant de la galanterie ou comme étant quelque chose de normal du fait que les hommes doivent payer pour les femmes, mais c'est pas du tout ça. C'est juste que c'est historiquement quelque chose de très jeune, le fait que les femmes peuvent avoir un métier, avoir un compte en banque, ne pas être dépendantes financièrement d'un homme, et donc puissent appréhender leur carrière professionnelle ou quoi comme étant autre chose que quelque chose de familial. Je pense que n'importe quelle femme aujourd'hui s'est retrouvée dans une situation où elle s'est dit « ça c'est pas juste, ça c'est pas normal, ça devrait pas arriver ». Parce qu'on est confronté tous les jours au sexisme ordinaire, Par exemple, il y a eu énormément de bruit là-dessus il y a quelques temps, et c'est hyper important que ça revienne, mais le harcèlement de rue. Je pense que 100% des femmes ont déjà subi cette situation. Donc c'est quelque chose de commun. Mais alors après, est-ce que la réflexion va jusque « c'est pas normal, donc il faut faire quelque chose contre » ou est-ce que la réflexion s'arrête à « c'est pas normal, c'est con que ça m'arrive ». Après, il faut pousser la réflexion jusqu'à « c'est pas normal, donc il faut faire quelque chose contre ». Et ça, c'est pas forcément un cheminement intellectuel que tout le monde est prêt à faire. Enfin, de remettre en question la société dans laquelle on vit, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie et qui n'est pas forcément évident à faire, quoi, parce qu'effectivement, oui, quelqu'un qui cherche du boulot, qui doit penser à des choses très concrètes tous les jours, n'a pas forcément le temps ni l'énergie. Et après, t'as ceux qui te disent « ça va, c'est comme ça, te plains pas, quand il y a un mec qui te drague dans la rue, t'es quand même bien contente qu'on te drague ». Enfin, il y a aussi une différence de « je comprends ce que tu dis, mais moi j'ai pas le temps de m'en préoccuper et j'ai pas envie de dépenser mon énergie à ça ». Il se trouve que dans mon entourage, il y a 90% de femmes et 10% d'hommes. Je sais pas d'où ça vient et je sais pas pourquoi. Après, oui, les questions du féminisme, c'est des choses qu'on aborde très 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 souvent. Autour de moi, effectivement, il y a énormément de gens qui partagent les opinions que j'ai par rapport à ça. Et chacun a sa vision du féminisme et chacun a sa façon d'apporter sa pierre à l'édifice, d'apporter son point de vue, d'apporter peut-être à certains moments des modérations sur certains propos. Il y a certaines de mes amies avec qui on partage pas forcément les mêmes opinions. Il y a des choses qui, moi, me révoltent et qui, elles, pas du tout. Enfin, ça fait bizarre de dire ça, mais sur la place de la femme dans la société, est-ce qu'on doit vraiment avoir une place ? Est-ce que c'est pas plutôt la place de l'humain dans la société ? Qui devrait se poser des questions. Alors là, oui, comme je disais, je suis dans ma dernière année d'études, donc je vais passer au niveau professionnel, on va dire, d'ici quelques mois. Alors par contre, moi, je ne me fais pas trop de soucis par rapport à... Après, c'est peut-être idéaliste. Hein. Si on refait cette interview, peut-être dans un an ou deux, j'aurais peut-être pas le même discours. Mais je ne sais pas. Moi, pour l'instant, je suis très confiante par rapport à ma place en tant que femme dans ce métier, dans ce milieu, parce qu'au vu des différents stages que j'ai faits, au vu des différentes rencontres que j'ai faites, de gens qui sont réellement professionnels et qui ne sont pas professionnels et professeurs, enfin, c'est très rassurant comme vision, parce que jamais, dans le milieu professionnel, je n'ai été confrontée à mon statut de femme. J'ai été toujours confrontée à mon statut de technicien. Technicienne, en l'occurrence, mais de technicien. Le fait que je sois engagée ou pas, ça ne dépend pas du tout du fait que je sois une femme ou un homme, ça dépend de mes capacités techniques, et ça c'est quelque chose de très rassurant. Après, au niveau de ma vie, je vais avancer comme ça, et toujours, et en remettant, j'espère, les choses en question, et en me questionnant par rapport à ce qui m'entoure, et en me demandant si c'est normal les choses qui se passent, en me demandant si c'est acceptable, et s'il ne faut pas un petit peu remettre plus de choses en question, s'il ne faut pas forcément accepter comme du pain béni la moindre chose qu'on nous propose. Et c'est Simone de Beauvoir, je crois, qui disait qu'il ne fallait jamais considérer les acquis sociaux comme étant acquis. Parce que ça, c'est quelque chose de très friable et quelque chose de très... Comment dire, c'est tellement fragile. Enfin, par exemple, ne serait-ce que quand on regarde les pays qui reviennent en arrière par rapport aux lois sur l'avortement, c'est friable aujourd'hui alors que ça devrait être acquis depuis... Et c'est toujours très friable et il faut toujours être à l'affût de savoir ce qu'on peut nous retirer. Il faut prendre avec parcimonie et avec beaucoup de réflexion ce qu'on nous offre, mais il faut faire très attention à ce qu'on veut nous retirer. Et je crois que ça dit beaucoup de choses sur une société quand on commence à retirer des droits à certaines personnes, je crois que ça dit beaucoup de choses sur le monde qui nous entoure et il ne faut jamais considérer que c'est quelque chose d'acquis.
Un grand merci à Marguerite et à Lise. Alors pour la quatrième de couve de ce mois d'avril, je vous présente la revue trimestrielle Femmes ici et ailleurs, éditée par l'association du même nom. Alors c'est un magazine indépendant créé en 2003 où vous pouvez prendre des nouvelles des femmes du monde entier à la lecture d'articles brefs ou de dossiers plus fournis. Par exemple, dans le dernier numéro paru, on peut y lire une interview d'Alice Ncom, avocate militante contre l'homophobie au Cameroun, le combat des femmes chiliennes pour le droit à l'avortement ou encore 6 portraits de femmes roms et citoyennes européennes, le tout saupoudré de belles photos, ce qui ne gâche rien quand même. Vous pouvez trouver cette revue dans les bibliothèques ou vous abonner sur leur site internet. Voilà, bonne lecture. Les Voix d'Olympe, c'est terminé pour ce mois-ci. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur studiosf.fr à la rubrique Tous au poste. À bientôt, j'espère. Prenez soin de vous.